n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'Instant Juillet, alors posez-vous, respirez, et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin, et pourquoi pas le vôtre. Ce 31e épisode inaugure notre toute nouvelle saison juillet, et avec Cédric, il était évident que nous devions lancer cette saison 3 avec Marie-Laure Billot. Marie-Laure est une entrepreneure multi-récidiviste dans le domaine de l'optométrie. J'ai rencontré Marie-Laure au cours d'un repas avec des amis, dont je cacherai le nom du groupe. Il est confidentiel. Et nous nous sommes vite comprises. Alors parce que c'est lors de ces moments imprévus, je crois, que l'on ose parler de ce qui nous porte, évoquer ce qui se cache derrière ce que nous montrons de notre ambition et ce qui se cache surtout derrière l'assurance de la chef d'entreprise. Et comme il est écrit très délicatement sur un joli cadre de son salon dans lequel nous avons enregistré ce podcast, c'est peut-être ça le pouvoir de porter deux prénoms. Marie tendre et Laure féroce, insolente sans le faire exprès, à la carapace d'un hiver froid dont les vents violents que provoque la vie adoucissent le cœur pour la rendre plus jolie, peut-être vers un été invincible. Marie-Laure, un sublime oxymore. Alors vous vous en doutez, je suis certaine, notre rencontre n'est pas un hasard et elle devait nous accompagner sur le chemin de cette saison 3. Je suis heureuse de partager avec vous les projets incroyables de Marie-Laure le temps d'un instant juillet. Donc Marie-Laure, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet et de lancer cette toute nouvelle saison à nos côtés. Alors je tiens à te dire à quel point je suis impressionnée, mais tu le sais, par ta force d'innovation, ta capacité à avancer, ta détermination face aux obstacles, parce que oui, on se l'est dit mille fois, la vie d'entrepreneur c'est pas un long fleuve tranquille, il y a mille galères à gérer et surtout il faut la force de se relever. Et on en a parlé tous les trois d'ailleurs, il y a deux styles d'entrepreneurs. Celui qui se met à fond sur un seul projet très cadré pour réussir sans s'éparpiller à la Benioff, ça. Ou celui qui se lance sur plein de projets, qui se complètent et qui s'alimentent pour atteindre un objectif plus grand que soi, à la Musk. Et on est d'accord que tu es dans la team Musk.
Je crois qu'on est tous dans la même team d'ailleurs.
Alors on a mille sujets à évoquer, mais je m'arrête là parce que je vais te laisser te présenter. Parce que la question peut paraître basique, mais tu as tellement de vie que ça n'est pas si simple de te présenter. Alors dis-nous, qui est Marie-Laure ?
Alors Marie-Laure, c'est une jeune femme qui a peiné à se trouver, surtout dans un premier temps, autant dans ses études que sur son parcours en règle générale, et du coup qui a rebondi plein de fois pour arriver là où elle en est. Donc j'ai commencé par faire un master en sciences de la vision il y a de ça maintenant quelques années, et en sortant de ce master de sciences de la vision, j'ai voulu prendre un petit peu mes marques et j'ai commencé à travailler en tant que salariée avec des ophtalmos, où j'ai pris place et j'ai pris une crédibilité surtout sur le terrain. Et par la suite, j'ai voulu m'installer à mon compte. Par contre, l'optométrie n'est pas reconnue en France. Donc ça a été mon premier obstacle, surtout. Ça a été de savoir comment j'allais m'installer, comment j'allais avoir cette crédibilité terrain, et ne pas être embêtée, surtout pour pouvoir exercer tel que je le souhaitais.
Non, mais t'as quel âge à ce moment-là ?
Donc tu sors d'études. 25 ans.
Ouais, donc t'as 25 ans, tu décides déjà de créer une activité, et dans une activité qui n'est pas reconnue, qui n'est pas cadrée dans ton pays.
Qui voilà. N'existe... Normal. Qui existe en off, hein, et qui est plutôt très controversée. Donc... je décide d'aller dans une niche qui s'appelle la contactologie, qui est donc le port de lentilles de contact. Alors, vous connaissez tous ce port de lentilles de contact, les souples, mais il existe également plusieurs autres types, plutôt thérapeutiques. Et moi, c'est plutôt ma spécialité d'ailleurs, ce côté thérapeutique, pathologique, post-chirurgical. Et du coup, je rencontre mes futurs... associés qui sont les ophtalmologistes de Blois, que l'on connaît. Et je ne peux que leur en être gré, d'ailleurs, de m'avoir fait confiance. Et donc, il y a maintenant 6 ans, je me suis installée avec eux au sein de la Mosaïque Santé et je fais tout ce qui est contactologie. Je me suis installée à mon compte.
Et donc, en fait, du coup, toi, le service que tu rends, il est aux ophtalmos ou il est à l'utilisateur final ? Non, aux patients quand même.
Aux patients.
Et donc, tu interviens en complément, en fin de compte, des ophtalmos.
Exactement. En fait, on est sur un cabinet pluridisciplinaire où chaque médecin a sa spécialité. Et une spécialité à part qui est donc la contactologie est quelque chose de très peu marqué en France, représenté ou surtout très mal représenté en fait en France. On a le seul parcours qui n'est pas normé d'ailleurs, c'est celui de la contactologie. Mais du coup, comme ce n'est pas normé, c'est un milieu, et c'est le seul d'ailleurs milieu où dans l'industrie on est sur un marché qui est flat. En contactologie, voire limite en décroissance. En 2022, c'est quand même un petit peu particulier de se dire qu'on a un marché en décroissance, surtout sur un port de lentilles où les gens n'ont plus envie forcément de porter de lunettes, où on a vraiment de multiples innovations qui nous permettent d'équiper beaucoup de personnes. Donc du coup, moi je me suis beaucoup rapprochée de l'industrie de la contactologie, de par déjà ma place à Blois, qui est donc... une des rares à être installée telle que je le suis en France. Et je me suis motivée, enfin pas motivée, j'ai eu envie en fait de faire évoluer le marché de la contactologie dans le... pas dans le bon chemin, parce que je pense que c'est pas forcément le terme, mais d'aller vers le mieux. Et par là, on avait besoin d'outils. On n'a pas d'outils qui nous permettent de suivre nos patients. Moi, je travaille toujours sur des fiches papier. Et du coup, bah, 2 ans après mon installation, je me suis dit, bah, je vais créer un outil qui va me permettre de gérer mes patients et de gagner du temps en plus sur mes adaptations. Donc, je ne savais pas trop dans quoi je mettais le doigt, mais contactologue...
Le fabuleux monde des outils numériques.
Exactement, du digital. J'ai mis le doigt dedans et j'ai commencé à m'y intéresser. Ça a été difficile. Faut dire ce qui est, je pense que ça l'est toujours. On va pas se mentir. C'est vraiment, je pense, mon entreprise la plus pas la plus compliquée, mais autant financièrement aller lever des fonds, avoir les finances pour pouvoir le faire, que de gérer les différents acteurs en fait que l'on a besoin pour le développement d'une telle plateforme. C'était quelque chose d'assez titanesque. Et je ne me rendais pas compte.
Et puis tu pars de zéro, c'est-à-dire qu'à la fois tu nous expliques que tu es sur une niche, c'est-à-dire une discipline qui est peu connue, qui est peu utilisée, qui est peu présente comme tu le fais ici en France. Et donc tu développes un outil qui n'existe donc pas. Donc tu as tout à faire, à la fois techniquement, mais aussi pour l'expliquer, pour le vendre, pour identifier le besoin et pour y répondre, quoi.
Exactement. Comme je dis, c'était titanesque.
Ouais, c'est ça,
en fait, je me base principalement sur ma part métier. Moi, j'ai cette crédibilité terrain et surtout, je sais ce que j'attends, moi, aujourd'hui, d'un outil. J'ai la chance d'être très bien entourée et d'avoir un gros réseau également dans mon métier, que ça soit chez les ophtalmologistes, les optométristes, quand même, je vais continuer d'utiliser ce terme, même s'il serait à bannir aujourd'hui, que les opticiens. Je connais un petit peu tous ces métiers-là. Et du coup, ça me permet de cibler un petit peu ce que je souhaite. C'est-à-dire, je sais apporter la part métier à cet outil. Par contre, la partie digitale, une grosse catastrophe. La première fois que je fais des rendez-vous avec des équipes de développeurs, je me dis, je suis dans un autre monde.
Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de se comprendre parce qu'en fait, eux, ils ont un métier hyper technique. Donc, en fait, ils vont te parler ce qui est possible techniquement, mais ton métier, ils ne le connaissent pas. Et toi, il faut que tu arrives à décrire ce que tu veux, mais en même temps, tu ne sais pas les possibilités techniques. Donc, c'est vrai que le dialogue est très compliqué.
C'est ça. Moi, ils m'avaient fait, tu sais, des petits PowerPoint avec des définitions. Des termes qu'ils allaient utiliser durant les rendez-vous. Enfin, tu vois, comme une enfant de 5 ans, évidemment, il fallait que je comprenne. Et du coup, c'était assez rigolo. J'avais toujours mes petites diapos avec les définitions des termes. Et moi, par contre, il fallait que je leur explique également. Ils m'ont demandé, allez, vas-y, décris-nous un parcours patient. Ah oui, mais comme j'expliquais, comme le parcours n'est pas normé, nous n'avons pas qu'un seul parcours patient possible en France.
Oui.
Donc, il a fallu qu'ils comprennent qu'il y a à peu près... 4 parcours différents. Alors, je me revois coller des post-it sur des tableaux. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué au début. Pareil, de leur faire comprendre que non, une version 1, quand ils parlent de digital et quand ils parlent de première version d'un outil en informatique, ils te disent il faut l'alléger, on la fait la plus bête possible et on la met sur le marché, on voit ce que ça donne. Donc, ils commencent à me dire ouais, bah, tu choisis un labo, une machine, on implante tout ça, on voit ce que ça donne. Alors, non. Vous n'avez pas compris que ça n'allait pas fonctionner, ça. Donc, tu vois, il a fallu recoller des post-it. Et là, ils m'ont tous regardé en disant « Ah ouais, mais en fait, On ne peut pas sélectionner, il faut sortir quand même quelque chose de complet. Donc ça complexifie un petit peu la tâche déjà dès le début. Aujourd'hui, bah, pour te dire, on est en 2022, il n'a toujours pas vu le jour. Hein. Nous sommes toujours en train d'y travailler. On a choisi de développer en interne maintenant. C'est pareil, ça a été des rebondissements en fait dans cette aventure. Je voulais développer en externe et puis au fur et à mesure, il s'avère qu'en externe, c'est pas pratique si tu veux refaire des changements, tout ça. On te guide aussi un petit peu, enfin, on t'apprend sur le tas surtout. Et on a choisi de développer en interne. Il a fallu aller lever des fonds. Là, on va reparler après, je pense, des différentes portes qu'on se prend.
Surtout que tu vas devoir lever... Enfin, là, tu cherches à lever des fonds sur, finalement, une activité qui n'est pas ton cœur de métier au départ. En tout cas, qui n'était pas celle pour laquelle voilà. Tu étais connue, reconnue et tu avais ton réseau. Donc, il faut l'expliquer aussi.
Il faut l'expliquer. Ça reste du digital aussi. Ça reste aussi une niche que personne ne connaît, la contactologie, ou que très peu connaissent. Surtout, oui, moi, comme tout à chacun, quand on crée quelque chose, on se dit, on va aller voir la banque, on va lui proposer mon projet, ils vont nous donner de l'argent. Ça va
bah être... Oui, bien sûr, ils nous attendent en plus, donc c'est parfait.
T'as une bonne idée, c'est génial, ils t'aiment le disait demain et vas-y. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, encore moins dans le digital, puisque c'est de l'immatériel, en fait. Donc, ils ne prêtent pas sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer. Donc, la première fois, on me dit, ouais, c'est bien gentil, Marie-Laure, mais nous, on va te donner que temps. Et puis, débrouille-toi. Donc, puis, c'était même pas un dixième du coût du logiciel. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et puis, de fil en aiguille, on va chercher des fonds, on trouve des investisseurs qui nous suivent. Et après, il faut aller demander des subventions. Puisqu'on a quand même le droit d'être suivi un petit peu par notre région et par d'autres fonds publics. Mais pour aller chercher ces fonds publics, il faut déjà avoir des fonds privés.
Oui, c'est ça. C'est la base, en fait, au départ. Que tu sois suivi par des business angels, enfin des gens qui croient en toi, en ton projet, quoi.
Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit au début. Justement, on parle beaucoup du fait que les entrepreneurs sont aidés par l'État, mais ils sont aidés seulement s'ils ont de l'argent à la base.
Oui, c'est ça. Il faut une mise de départ. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais la prise de risque, elle est toujours de toute façon sur le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui prends ton risque. Et donc après, les gens croient en toi ou pas, te suivent ou pas, mais dans tous les cas, le plus gros risque, c'est toi qui le prends. On t'aide pas si toi, tu prends pas ton risque, quoi.
Exactement. Et en fait, le risque, il est assez important. On s'en rend pas compte. Au début, on se dit, allez, vas-y, je me lance, ça va être sympa, mais le risque, il est tout le temps là. Et on va chercher des investisseurs, on leur demande d'investir pour toi. Tu doubles ta charge sur tes épaules. Mince, il ne faut pas que je me loupe. Parce qu'ils me font confiance, on est partis ensemble, il va falloir aller jusqu'au bout, quoi. Pour moi, c'est challengeant. C'est une histoire et une vie qui est stressante. Après, faut aimer vivre dans cet état.
Ah, mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu lâches pas là-dessus? Qu'est-ce qui fait que... Donc là, on a compris que tu es sur une activité qui est déjà une niche, qui est une micro-truc où il faut que tu te battes pour le faire reconnaître, en tout cas pour montrer que c'est une discipline qui peut être légitime et utile aux patients. Derrière, du coup, il faut que tu développes un outil lié à ton métier parce qu'il n'existe pas. Et tu fais face à plein de difficultés qui sont finalement au-delà de ton métier parce que levée de fonds, parce que digital, etc. Et tu prends un risque énorme. Qu'est-ce qui fait que tu te lances quand même? Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas et qu'après tous ces mois de galère, t'es encore là?
C'est moi et ces années.
C'est moi et ces années.
Non, pourquoi je suis là? Je pense que c'est des tempéraments. En fait, aujourd'hui, faut aimer vivre sous stress et sous pression. Faut savoir prendre du recul, le recul nécessaire aussi sur là où on en est, là où on veut aller, comment on rebondit. Parce qu'à chaque fois qu'on se prend une porte, ça va rebondir. Et ça me fait penser justement à plusieurs choses que j'avais lues en me disant que le cimetière des bonnes idées était justement jonché de bonnes idées qui n'avaient pas été concrétisées. Donc aujourd'hui, on ne les concrétise pas parce qu'on manque d'endurance. En fait, vraiment l'atout majeur, je pense, d'un chef d'entreprise, c'est d'être endurant. Endurant face à ce stress, endurant face à ce challenge et pouvoir supporter tout ça et continuer et pas baisser les bras. Et ça, c'est un leitmotiv. Moi, je pense que mon leitmotiv, c'est de me dire qu'aujourd'hui, l'outil est attendu, J'ai été quand même suivie de la part de l'industrie de la contactologie, donc les gros laboratoires que l'on connaît, aussi bien internationaux que purement français. J'ai été suivie aussi par les différents pôles ou acteurs de la santé visuelle. Donc aujourd'hui, ben, je me dis, on ne peut pas se louper, quoi. On ne peut pas se louper. On est attendu, il faut y aller. Et c'est motivant, même si on se prend des portes, c'est motivant.
Ouais, mais quelque part, alors c'est motivant. Tu parles d'endurance et c'est assez intéressant parce que je crois justement que ce qui te fait endurer, c'est intéressant comme terminologie, endurer, parce qu'effectivement, ça fait sur le challenge sportif, mais c'est aussi le côté que c'est difficile. Endurer, ça veut dire qu'il faut tenir sur la durée, ça veut dire qu'il faut de la patience, mais ça veut dire surtout que tu as un objectif qui est clairement défini. Et cet objectif, il peut être très très large, c'est pas forcément un petit détail, parce que si tu t'acharnes à un petit détail du projet et que tu échoues à ce niveau-là, bah t'abandonnes tout, en fait ton objectif il est pas tenu, donc t'arrêtes. Non, en fait toi ton objectif il est au-delà, et finalement aujourd'hui t'es dans un processus, un challenge avec de l'endurance, parce que t'as toujours ton objectif vraiment loin en tête. Et je vais revenir sur ce que je disais en introduction, t'as tous ces petits projets. Quand je dis petit, c'est des gros projets, mais tu as plein de projets, une multitude de projets qui, en fait, sont ensemble sur un seul et même objectif. Alors, c'est quoi ce grand objectif ?
Eh bien oui, parce que si seulement il y avait que deux sociétés, mais non !
C'est ça !
On continue facile. Dans les petits projets autour. L'objectif final, moi, c'est de faire reconnaître la contactologie, de normer le parcours du patient en contactologie et de faire croître la contactologie en France.
Ça, c'est quand même, excuse-moi, je te coupe là-dessus, mais ça, c'est quand même un projet, ce que j'appelle un projet plus grand que toi, c'est-à-dire un projet plus grand que ton entreprise. Un projet, c'est vraiment ton pourquoi, ce qui fait que t'es motivé, que t'es capable d'endurer parce que t'as cet objectif-là.
Oui, bien sûr. Et pourtant, Dieu sait que j'en discute avec d'ailleurs pas mal de personnes qui me côtoient dans les différents projets et qui travaillent également dans l'industrie de la contactologie et qui me disent, mais... T'es folle en fait. Vraiment, la terminologie, c'est. Non, en fait. Oui, mais il faut avoir, en effet, ce qui les marque principalement, c'est outre la passion, c'est ce côté mordant et je lâche pas l'affaire. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas lâcher l'affaire.
On en discutait lors d'un précédent podcast. Alors, tu vois, comme ça, je te fais l'historique. Mais on a interviewé Gauthier Caton, qui est un chef d'entreprise qui est dans le funéraire. Donc, ça n'a rien à voir avec ton activité. Mais qui nous expliquait à quel point il a voulu aussi révolutionner son activité. Et il nous parlait de ses lectures et de ses modèles, entre guillemets, ses inspirations. Et quand il parle de ses inspirations, il parle à la fois de grands chefs d'entreprise avec des réussites qui étaient totalement imprévues, improbables, mais aussi d'artistes, de gens qui sont passionnés. Et quelque part, c'est ce que tu dis, souvent ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont fous, ou en tout cas qu'ils sont un peu à part, qu'ils sont un peu farfelus, enfin c'est des gens, on comprend pas bien ce qui les mène, parce qu'en fait on se dit mais il a jamais, mais en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que toi t'as ton objectif en tête qui est clair, tu peux perdre des petites batailles au milieu, c'est pas grave, parce qu'en fait t'as ton plan de guerre qui est établi, et tu continues à avancer petit à petit vers cet objectif-là, donc tu tiens.
Exactement. Bah, après, c'est ces petites batailles qui sont quand même difficiles entre
tout. Et tout le monde n'est pas capable de les mener.
Et non.
Donc, comment Marie-Laure est capable de mener toutes ces petites batailles ?
Alors, comment elle est capable ? Je sais, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Je ne vais pas vous dire, il faut une pincée de ça avec un petit peu de ça. Un petit peu de champagne, c'est obligatoire. Mais je pense qu'il faut déjà être bien entouré. C'est la base pour tenir. Il faut croire en son projet. Je pense que c'est aussi... faut pas se laisser démonter à la première personne qui va te dire « Mais attends, ton projet, tu vas droit dans le mur, c'est compliqué. » Si la première personne qui vous dit ça, vous n'êtes pas capable de rebondir et de dire « Bah si, je sais comment j'y vais, je vais y aller. » C'est fini. Vous pouvez raccrocher. Je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi. On est une société où si tu lis les réseaux, tu as que des success stories. Mais c'est pas vrai. La preuve en est, je pense que bon, en septembre 2022, on a vu sur LinkedIn passer maintes et maintes personnes nous annoncer la fermeture de leur société. Là, dans les quelques mois qui sont passés, alors qu'ils ont fait la une de Forbes, ils ont fait... voilà. Alors, il y a le côté « je sais parler de ma société, je vais pas lâcher », mais il y a le côté « c'est bien beau d'en parler », mais derrière aussi, la clé de la réussite, ça va être l'exécution. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça fonctionne ? L'exécution, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pareil, t'as pas de recette, tu vas essayer une première chose, tu vas te planter, le but c'est de savoir comment tu vas rebondir, qu'est-ce que tu vas faire, qui va faire que ce coup-ci ça va fonctionner et tu vas passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, je pense que c'est là où moi je gagne mes batailles, c'est-à-dire je suis capable de réfléchir et de réfléchir à des choses, à repenser plutôt mon projet à tête reposée et à me dire bah tiens, plutôt que de faire ça comme ça alors que c'était prévu comme ça, je vais plutôt le faire comme ça. Et puis à tel moment, bah non, bah en fait c'était prévu comme ça, bah je vais le faire comme ça. Et je pense que tu vois, les personnes qui me suivent sur Contactologue, typiquement depuis un an, ils m'ont entendu dire bah tiens, je me suis levée ce matin et en fait, je me verrais plutôt faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ben là, plutôt, ben, tu vois, pour le faire rentrer sur le marché, ben, on va plutôt le faire comme ça, comme ça, comme ça. Je change mon fusil d'épaule régulièrement.
Mais je ça veut dire que c'est parce que tu te remets en question, déjà. Ce qui est pas forcément, enfin, c'est pas forcément quelque chose de facile et que tout le monde sait faire. Parce que ça veut dire qu'il faut oser aussi se dire, mince, j'ai pris la mauvaise direction. Si je continue comme ça, ça va pas aller. Il faut que j'arrive à changer ma façon de voir les choses. Et ça veut dire que t'es... ouverte, je dirais, ou en tout cas à l'écoute du monde qui bouge autour de toi. Ton projet, il n'est pas fermé, sur ce que tu es, sur ta passion. Il est aussi ouvert avec les gens que tu rencontres autour et comment le monde bouge autour de toi et peut influencer ton entreprise, du coup.
Alors, tout à fait. De toute façon, je pense que c'est aussi la clé de la réussite. C'est d'écouter ce qui se passe autour, parce que tu as beau avoir ta première idée de base, il faut pouvoir rebondir. En fait, c'est justement une fois que tu es lancé dans ton idée que tu vas te rendre compte que tu as... que ce n'est pas une longue ligne droite, que tu vas faire plein de virages et ces virages vont te permettre d'arriver à ton point final. Mais ouais, c'est ça la clé de la réussite. C'est savoir rebondir, savoir réajuster ton projet régulièrement pour pouvoir aller à ton but ultime. Après, on n'en est pas tous capables. Il faut être, comme je l'ai dit au début, la clé de la réussite, c'est également d'être soutenu et bien entouré. Sans ça, sinon, ça ferait longtemps que j'aurais lâché aussi.
Je pense que... Tu dis bien entouré, à quelle personne tu penses ? Qui autour de toi et t'aide au quotidien ?
Alors ma famille déjà, et Dieu sait que je leur en fais baver pourtant. je peux que remercier ma famille, déjà le tempérament que j'ai, je peux que remercier mon papa qui est entrepreneur de base. Et il a fait de nous trois, puisque j'ai deux grands frères, on est tous les trois chefs d'entreprise, entrepreneurs. Il nous a donné ce goût du travail et surtout, il nous a montré que sans se battre, ben, on n'avait jamais rien. Donc, battez-vous et allez-y, croyez en vous, en vos passions. On a tous les trois des secteurs totalement différents et je pense que notre point commun entre nous trois, par contre, c'est de ne pas lâcher. Et ça, c'est lui qui nous l'a donné. Aujourd'hui, il continue d'être derrière nous, il continue de temps en temps. Hein, il y a des petites prises de bec, hein, évidemment, comme dans chaque famille où on n'est pas forcément d'accord.
Justement, ça construit. T'es obligé de débattre, t'es obligé de défendre.
Donc, exactement. Déjà, tu défends donc, qui voilà, je sais qu'ils vont écouter, donc merci papa. ma maman aussi, hein, mine de rien, elle a toujours été derrière mon père et derrière nous, à nous seconder, à nous supporter, à temporiser aussi les choses. Et donc ça, c'est, je pense, déjà une première chose, d'être bien soutenu et d'être qu'on croit en vous, surtout d'un point de vue familial.
La confiance. Dans la construction, c'est essentiel. Ouais.
C'est obligatoire. Après, les amis aussi, mine de rien. Même si on voit qu'au fil des années, les amis changent quand on devient entrepreneur, parce qu'on change. Accessoirement, tout ce qui se passe d'un côté professionnel nous façonne au fur et à mesure. Et je pense qu'en 10 ans de temps, j'ai beaucoup changé. Donc, les gens autour de moi ont changé.
Parce que ta vie, elle est forcément différente dans la prise de risque que tu prends aussi. Et que quelque part, oui, tu peux avoir des amis qui comprennent plus ou moins la vie que tu mènes, en fait.
Ouais, exactement. Je pense qu'on est d'accord avec ça. D'autres personnes qui ont fait d'autres podcasts chez toi, on en a beaucoup parlé. Et oui, c'est compliqué de se faire bien entourer des amis. On en a très peu. Après, on a besoin de ce soutien quand même. Parce que c'est aussi ce qui nous permet de lâcher prise à certains moments, de passer des bons moments, des soirées auxquelles on va lâcher notre téléphone, arrêter de penser que, mon Dieu, il faut que j'aille rechercher de l'argent. Mon Dieu, j'ai pas envoyé ça en administratif. Mon Dieu... ma roadmap, on n'est pas vraiment dans les temps. Enfin voilà, ça nous permet aussi de lâcher un peu prise. Et je dirais bien entouré également sur la société. Les investisseurs, des associés quand on en a, et malheureusement, et ça, alors, parfois, là, ça se passe mal.
Le bon associé, ça, c'est compliqué.
Voilà, ça, c'est compliqué. Voilà, j'ai Cédric, dernier podcast de la saison 2, auquel il en a parlé face à moi, et on en a aussi parlé entre nous. Moi, c'est quelque chose qui a été difficile, les associer sur toutes mes sociétés. Donc, Opto-Conseil, je suis toute seule. Sur le cabinet, il n'y a pas de souci. Contactologue, il y a de multiples rebondissements. Et la troisième société, qui est une société de formation, où pareil, je me suis là pris un gros mur, où il a fallu rebondir sur voilà, les prises de risques entre associés, les désillusions surtout, le fait qu'on pensait aller dans la même direction et qu'en fait, ça ne matche pas du tout.
C'est toujours super compliqué parce qu'en fait, c'est à la fois ce qui fait aussi la richesse d'une entreprise, c'est-à-dire que l'humain, la relation entre associés, le fait de partager la même vision, la même ambition, d'être soutenu, de se porter l'un et l'autre sur des sujets compliqués de la vie d'une entreprise, c'est ce qui fait aussi parfois la force d'une entreprise. Et à la fois, c'est ce qu'on maîtrise le moins, qu'on mesure le moins, c'est-à-dire que effectivement, c'est ce qu'on disait, on en a déjà parlé toutes les deux, c'est comme un mariage. C'est-à-dire que tu te maries et puis 10 ans plus tard, il reste quoi ? Tu sais pas comment chacun évolue, la vision, est-ce qu'elle est la même ? Donc, dans une entreprise, c'est la même chose, il faut toujours réinterroger, de dire, est-ce qu'on est toujours OK là-dessus ? Est-ce qu'on partage toujours le même chemin ? Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on veut en faire ? Et par rapport au monde extérieur qui a bougé, et aux chemins différents qu'on a dû prendre, et aux réadaptations qu'on a dû faire, est-ce qu'on est toujours raccord ? Est-ce qu'on est toujours OK ? Et on se l'est dit, on en a parlé plusieurs fois, quand c'est plus OK, en fait, peut-être juste, il faut se dire, c'est pas grave, mais en fait, on fait autrement, quoi.
Alors oui, c'est pas grave, on fait autrement. Tu l'as très bien dit, c'est vraiment comme un mariage. Il faut savoir faire des concessions, je crois. Il faut savoir écouter l'autre. Alors, je dirais pas que je ne sais pas écouter les autres. Je pense que quand on m'amène les choses, je les entends. Après, j'ai un tempérament de feu, a priori quand même. Je suis pas facilement gérable. On a tous nos défauts.
D'où ton choix plutôt intelligent d'être chef d'entreprise et pas salarié.
Voilà. Mais du coup, en tant qu'associée, c'est un milieu que je connais que trop bien. En fait, le milieu de la santé visuelle, c'est un milieu où c'est un peu Dallas. C'est-à-dire, voilà, on a des ophtalmologistes, on a des opticiens, on a des orthoptistes. On a le secteur de l'optométrie qui n'est pas reconnu et pourtant qui essaie d'être là. Enfin, c'est Dallas, tout le monde est meilleur que tout le monde. C'est très compliqué. Et moi, il faut que j'arrive à faire matcher tout ce petit monde autour de moi. Parce que la contactologie, ça va fonctionner que si on trouve un process qui convient à tout le monde et qui est normé et que tout le monde l'entend. Je ne vais pas plaire à tout le monde, je vais forcément déplaire à certains et je l'accepte. Hein. J'aime bien dire qu'on m'aime autant qu'on me déteste. Donc voilà. Mais du coup, sur l'association, si tu veux, je savais où je vais et comment je l'emmène pour que ça plaise à tout le monde. Et malheureusement, parfois, c'est pas forcément très bien entendu. Tu vois, c'est-à-dire, on a des process mis en place sur la façon de marketer, sur la façon... Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on va marketer sur un profil qui soit médical, un profil qui soit commercial, du paramédical également. Et du coup, il faut les prendre différemment. Moi, je sais ajuster mon discours. Hein. Je vais toujours dans la même ligne de conduite, mais j'ajuste mon discours en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Chose que certains ne savent pas faire. Et là-dessus, du coup, on n'était pas forcément en raccord. Et puis, on n'était pas forcément en raccord aussi sur la masse de travail à fournir. Je suis quelqu'un qui est très dynamique, mais si c'est mon associé aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le tenir par la main et de l'emmener. Tu vois ce que
ça.
Je veux dire ?
C'est pas ton salarié, quoi. C'est pas quelqu'un que tu dois manager.
Et là, aujourd'hui, ça reste un... Je pense, comme je suis dans un milieu assez compliqué, je devais toujours un petit peu driver parce que ça reste mon réseau, ça reste ma façon de voir les choses, ça reste... Alors peut-être que j'ai voulu que ça soit comme ça aussi. Je peux pas jeter la pierre à tout le monde aussi. Comme je disais, je suis compliquée. Et quand j'ai une ligne directrice, je sais où est-ce que je vais aller. Alors on va échanger, on va changer d'idée, on va changer de ligne directrice. On échange. Mais en fait, si t'as pas cet échange-là et qu'on attend de toi que tu changes et que tu amènes toujours toutes les choses... et qu'il n'y a pas de prise de décision ou d'initiative, en fait, de la part de l'autre, tu te sens quand même un peu seule, faut dire ce qui est, et je pense que là, tu vas dans le mur.
Et puis du coup, tu poses la question de l'intérêt de l'association. C'est-à-dire Exactement. Que clairement, en tout cas moi comment je le vois, sur un projet alors qui est différent du tien, mais moi clairement, si c'est un projet que je peux pas partager, ou en tout cas si je me sens seule dans mon projet d'entreprise, autant le faire seule. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir un associé, c'est justement de se dire, tu partages quelque chose, t'as un soutien, t'as deux visions, tu te complètes, tu te tires plus haut l'un et l'autre, c'est parce que sinon si tu te sens seule, ok, bah, autant être carrément seule, quoi.
C'est ça. Après, voilà, je sais, là, je le redis encore une fois, ça reste également le mariage de deux personnalités.
C'est ça.
Et je sais que je ne suis pas facile. Et tu vois, forcé de constater cet été, en rentrant de vacances où je dînais avec mes parents, ils m'ont dit, bon, bah voilà, conclusion des choses, t'es pas faite pour t'associer.
Il n'y a pas Tinder de l'associé d'entreprise.
On n'a pas trouvé.
Tu vois, c'est ça qu'il
c'est
faut qu'on.
Ça
bah,
faire, hein.
C'est ça qu'il ah faut ouais. faire. Il faut qu'on crée un outil
It's
digital.
A match.
Mais ouais, un match entre associés.
Ouais, mais tu vois, typiquement sur le papier, il y avait une complémentarité des profils, ça fonctionnait. Tout au début, ça fonctionnait très bien. Et comme on dit, bah arrivé un moment, pourquoi ça fonctionne plus? Parce que on grandit. De façon différente, mais
oui, c'est
comme
ça.
Dans un couple.
Exactement,
en fait.
Exactement.
Tu te connais aux études,
exactement.
Plus tard, bah, tu grandis différemment dans ton métier, donc au bout d'un moment, ça ne matche plus, bah, tu te sépares.
Puis, tu as un objectif de vie qui peut être d'une manière à un temps T, et puis 10 ans plus tard, tu as un objectif de vie qui a changé. Donc, globalement, si l'autre n'a pas changé d'objectif de vie, bah, tu te retrouves confronté à des difficultés. Donc là, c'est pareil pour une entreprise, quoi.
C'est pareil, à part que tu rajoutes également l'enjeu financier.
C'est ça. Oui, enfin, dans un mariage, tu as aussi un enjeu financier, toujours.
On est d'accord. Là, c'est vrai que du coup, d'aller chercher, tu vois, des investisseurs, d'aller... Moi, aujourd'hui, j'avais plus à perdre. En fait, finalement, j'ai une crédibilité terrain à garder. Je pense que j'ai plus à perdre que mon associé qui va faire du digital ou, tu vois, qui n'est pas sur le devant de la scène, finalement. Et aujourd'hui, je ne peux pas lâcher, quoi. Donc, si ça ne va pas comme je le veux...
Pour ton objectif final, toujours, que tu as
ouais,
en tête.
Je suis assez horrible. D'ailleurs, mes amis diront qu'il vaut mieux m'avoir en tant qu'amie que dans le business. Parce que, bah, faut que ça marche droit, quoi.
Bah justement, c'est ce que je me demandais. Comment tu te relèves de ça? Parce que tu dis, vaut mieux t'avoir... en amie que dans le business, mais ok, on peut dire, voilà, Marie-Laure, elle va avoir... Puis en plus, on va beaucoup dire ça d'une femme, hein, caractère horrible, comment ça, elle est ambitieuse, elle laisse rien passer, etc. Mais en vrai, tu vois, derrière tout ça, derrière cette image qu'il faut que tu montes de chef d'entreprise ambitieuse qui n'a aucune faille, c'est pas facile, ça. Comment tu te relèves d'un échec comme ça, en tout cas d'une déception comme ça?
Alors, je pense que j'ai pas vraiment... Je sais pas si je peux appeler ça une déception. Si, si, c'est une déception, tu as tout à fait raison. Mais est-ce que ça me met à genoux? Je suis pas très sûre.
Ça te met pas à genoux.
Je me relève quand même relativement vite. Parce que c'est un leitmotiv, c'est une façon de vivre. En fait, aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de sport quand même. Le matin, je commence mes journées par une petite session de sport qui me permet de décompresser et de réfléchir et de me relever assez vite aussi. En fait, c'est soit tu as le moral de... Ça te challenge, le sport. Et je pense que typiquement, un entrepreneur, on va tous dire « Ouais, l'entrepreneur qui décrit sa morning routine, il va faire du sport, il va courir 3 heures, il va faire de la boxe, machin. » Mais en fait, c'est challengeant. Le sport, on va pousser nos limites. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat à côté. On va pousser nos limites, il va falloir aller chercher plus loin, il va falloir gérer notre douleur, parce que c'est de la douleur musculaire qu'on va chercher en se challengeant sur le sport. Et c'est... pas plus à la douleur non plus, mais voilà, sur l'entrepreneuriat,
il y a le côté,
les déceptions, il y a quand même...
Bah oui, puis le côté endurance aussi, le côté objectif, tout ça, ouais. ça relève aussi un peu du sport. Et puis, je crois aussi que quand tu es chef d'entreprise, mais même, globalement, tu as tellement de choses à penser dans ta tête, tu as tellement une charge mentale de dingue avec 1000 sujets, 1000 galères, 1000 choses à envisager en même temps, que quelque part, ces moments de sport aussi, c'est un moment où tu te dis, bon, allez, 2 secondes, là, de toute façon, je peux pas avoir mon téléphone, je pars courir, je pars à la salle, enfin, peu importe quel que soit le sport. Moi, plutôt, je pars courir, par exemple, bon, bah voilà, je peux pas regarder mon téléphone, je peux pas checker mes mails, je peux pas. Donc, en fait,
comment
voilà.
ça, tu fais pas plusieurs choses à la fois?
Non, mais en fait, j'avoue que. Je le fais plus avant, quand je partais courir, et je l'ai fait encore récemment cet été, j'en profite pour écouter des podcasts qui sont longs, dont le podcast dont on a parlé ensemble, la génération de Future Self, qui est trop long, qui est super long. Et donc en fait, si je pars pas courir, je l'écoute pas, parce qu'en fait, c'est 1h30 à trouver. Enfin voilà, donc c'est très compliqué. Donc voilà, c'est l'occasion quand je pars courir de me dire j'écoute ça. Et en fin de compte, plus ça va, et là, quand la rentrée est repartie, vraiment, où j'ai 1000 choses en tête et 1000 sujets à évoquer,
quand je vais parcourir, je n'aimais plus rien en fait. Parce qu'à un moment donné, je veux juste, tu vois, du silence,
faire le vide,
être tranquille. Et c'est ça que j'aime en plus dans la course. C'est contrairement à une salle de sport, par exemple, c'est de se dire, t'es tout seul, tu pars. Alors, je cours toute seule, quoi. Vraiment, là, c'est le critère, quoi. Je pars toute seule et j'ai rien. Et j'ai pas de son. Et je veux surtout pas penser au mail que je vais écrire après, etc. Et des fois, c'est là où tu trouves l'idée que tu disais tout à l'heure, que tu dis sous la douche, ah tiens. Et si pour la saison 3 du podcast, je changeais l'introduction, tu vois ? Et si je disais ça dans mon intro ? Tu vois, c'est dans ces moments-là.
Alors moi, c'est pas dans ce moment-là. Moi, tu vois, c'est sous la douche que je trouve mes meilleurs moments. Mais et au sport, j'aime plutôt me faire mal. C'est dire, mais moi, j'aime bien que avoir un coach derrière moi qui va m'obliger à faire les choses. Typiquement, tu vois, j'aime pas faire des burpees. Moi, je vais à la salle. Hein. J'aime pas faire des burpees, j'aime pas faire des pompes. Ouais, j'aime bien qu'il me crie dessus un peu et qu'il me dit « Non, mais là, si tu fais pas la dernière, tu vas en faire 10. »
Okay. Ah, mais c'est drôle parce qu'en fait,
tu vas faire ça.
Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, limite, t'es content d'avoir un coach qui, quelque part, où c'est plus toi qui décides là. En fait, tu te laisses diriger par ton coach, tu vois. Alors que tout le reste de ta vie, t'es obligé de toi diriger.
Il m'entend grogner pourtant. Je vais dire, je n'ai pas envie de faire ça. Fais du rameur. Non, je déteste le rameur. Bon, je le fais, d'accord. Je le fais tout le temps. Mais, et finalement, moi, c'est plutôt aller au-delà de mes capacités. À chaque fois que je vais à la salle toute seule, clairement, je fais ce que j'aime bien faire. Je fais mon petit truc, c'est cool. Mais
ouais, t'en sors moins satisfaite, quoi.
Ouais, j'ai besoin d'être toujours dans le challenge. Mais je pense que c'est typiquement ce qui nous permet de passer au-dessus de tous ces échecs. Parce que là, on n'en a cité que certains, mais des portes, on s'en prend constamment. Des problèmes administratifs, l'administration, pour en parler, mais 15 ans, je pense que c'est notre gros problème en France pour les entrepreneurs. C'est cette administration qui nous plombe notre temps et qui nous empêche de prendre ce temps justement à développer notre réseau, à développer notre idée, à aller...
Qui nous demande d'être expert en plus dans des sujets où on n'est pas, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que tu dis, tu as des idées à développer, un concept, une marque, peu importe ton secteur d'activité, mais sauf qu'il faut aussi que tu sois expert dans
la comptabilité, le juridique. C'est exactement ce que j'ai dit, moi j'ai été formée à soigner des gens d'ailleurs, et pas à être chef d'entreprise. Donc quand j'ai démarré, il a fallu que je me mette dans la comptabilité. Tu payes des comptables auxquels tu dois faire confiance. Et puis bah, parfois, tu te rends compte que... Et tout le monde te le dit, non, faut pas faire confiance, en fait. Faut que tu regardes. Oui, mais en fait, j'y connais rien. Donc moi, si tu veux, s'il va me raconter la messe en me décrivant mon bilan, je vais faire oui. Parce que je sais rien. Et pareil pour le juridique, ça reste compliqué. Quand tu signes ta première société, donc je sais pas, que tu crées une SAS, que tu crées une CELAR, que tu crées une entreprise individuelle, tout ce que tu veux, il te faudra un mode d'emploi déjà. Savoir tout ce que tu dois déposer à la fin de l'année, tous tes papiers, et percevoir un petit papier dans ta boîte aux lettres. Bonjour, vous avez oublié de déposer ça. Putain, tu passes ton temps, quoi.
Et encore, ça s'est un peu amélioré parce qu'il y a certaines choses que tu peux faire en ligne, mais parce que sinon, il y a des trucs. En plus, il faut le papier, et en plus, il faut le remplir à la main, et en plus, il faut aller le déposer à tel bureau, de telle heure à telle heure, etc. Ouais, trop pratique.
C'est insupportable. Et pareil, tu vois, quand tu fais des levées de fonds ou même des subventions, tu as 20 pages de dossiers à remplir pour potentiellement avoir 10 000 euros à la fin. En fait, tu as passé un temps monstrueux, on t'a toujours redemandé des pièces. Enfin, voilà, la charge administrative pour un chef d'entreprise aujourd'hui est énorme. Moi, j'ai la chance aujourd'hui maintenant d'avoir des investisseurs qui me prennent en charge une partie de cet administratif. Parce que je suis très mauvaise là-dessus. Il faut dire ce qui est, on ne peut pas être bon partout. Je suis une mauvaise manageuse, je suis une mauvaise...
C'est pas là où t'es attendu quelque part et où est ta valeur ajoutée. Donc
on a chacun notre valeur ajoutée et clairement elle n'est pas là-dessus. Mais moi, on verrait la tête de mon bureau et de mon cabinet... Je suis pas ordonnée comme Nana en fait en règle générale.
Ouais, mais il paraît que c'était le bazar sur le bureau d'Einstein, donc t'es tranquille.
Ah bah voilà,
ça te donne une bonne
tout
excuse.
Tout s'explique. Non mais je suis organisée dans ma désorganisation. Tu me demandes de retrouver un truc, je vais retrouver le truc. Mais c'est pas très organisé quand tu regardes. Mais c'est pareil dans ma tête. Tu vois, justement, typiquement Jean-Baptiste Trudel dans son podcast, il disait. Que lui, il était totalement désorganisé, il avait toujours plein d'idées, pas très organisé, mais il payait des gens pour être organisé à sa place. C'est-à-dire, lui, tout va sortir en vrac, et derrière, les gens vont mettre en pratique et vont structurer ses idées. Bon, moi, je suis un peu pareil. Genre, j'ai plein d'idées. Je sors de ma douche, j'ai toujours 15 000 idées. Mais là, maintenant, va structurer, va mettre en place et va au bout des choses. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Mais en même temps,
toutes ces petites idées, comme tu disais, vont pour une grande idée. Et un grand projet.
T'es clair sur cette grande idée-là. Après, effectivement, le seul truc, c'est de trouver les gens qui sont capables de te suivre et de faire confiance sur cette grande idée. Et qui, même s'ils ne sont pas assurés de toutes les petites idées qu'il faut, de toutes les étapes qu'il faut franchir, même si elles peuvent changer parce que tu peux les modifier, parce que ta route, elle peut changer, parce que plein de choses, ils sont tenus ou ils ont confiance ou ils te suivent sur la grande idée. Et le talent, il est là, c'est quoi. Ça. Le leadership, c'est il est ça. Là-dessus.
Et puis, en fait, tu vois, tu rencontres du monde. Tes idées, tu les as aussi à rencontrer des gens. C'est-à-dire, moi, dans les congrès, dans... les salons, dans les différents séminaires, tu vas rencontrer différentes personnes dans différents milieux, que ça soit l'industrie, que ça soit dans le médical, les ophtalmos, et j'en ai rencontré certains, tu vois, qui sont jeunes, qui ont aussi l'esprit entrepreneur en fait, et ça a matché, on s'est donné des idées, on voit les choses, on a envie d'évoluer également ensemble, donc c'est assez rigolo, ça te donne d'autres idées, tu vas leur en parler, et puis c'est eux qui vont matcher avec toi sur l'idée, et qui vont dire « Ok, d'accord, bah, je te suis là-dessus, on y va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place ?» Et bah voilà, de fil en aiguille, tu rencontres plein de gens. J'ai développé aussi, enfin, je voulais mettre en place de la neuroscience un petit peu dans la région. Je voulais que notre région soit novatrice dessus. Donc j'embête beaucoup notre président de l'aglo dessus. mais je pense que c'est primordial de prendre en charge aussi notre population. C'était encore un nouveau projet. On m'a dit, t'as encore un nouveau projet, c'est pas possible.
C'est ça le problème. C'est qu'après, les gens, ils ont toujours... Ça, c'est toujours un vrai sujet. T'es sur 1000 trucs. Et ça, des fois, les gens, ça les... C'est pas question de dire ça les impressionne, c'est pas le terme que je cherche, mais ça inquiète parfois un petit peu, ou en tout Exactement. Cas, ça peut parfois décrédibiliser, ce que je trouve très dommage. Moi, on m'a souvent fait la remarque, oui, mais Charlotte, t'es là aussi, oui, mais tu fais ça, oui, mais t'es aussi engagée là-dedans, mais je comprends pas, c'est quoi ton sujet. Mais en fait, regardez mon objectif final, regardez le tout, c'est tout cohérent. J'ai une cohérence globale dans tout ce que je fais, simplement, je ne sais pas faire qu'un seul truc. Peut-être je peux être sur plusieurs trucs et les faire bien quand même, c'est possible, ça arrive.
C'est ça, et puis comme tu dis, tout a plutôt un lien. Moi, quand j'équipe en lentilles des sportifs aujourd'hui, donc je suivais plusieurs sportifs que j'ai équipés en lentilles de nuit qui s'appellent l'orthokératologie, pour qu'ils puissent aller sur le terrain sans être gênés par leurs lentilles durant le match. Donc on va améliorer leur efficacité sur le terrain. Le but, c'était d'aller plus loin, puisque donc, on a une partie neurosciences également dans mes études, et c'était de pouvoir proposer cet accompagnement sur le traitement des informations donc du cerveau qui proviennent des yeux. En fait, il faut se dire que 80%, 88% des informations traitées par le cerveau proviennent des yeux. Et moi, je travaille dans les yeux, donc tu vois, tout a un lien. Et maintenant, on va améliorer donc, ce traitement. Mais pour améliorer ça, bah, y a une vraie prise en charge, mais par des choses ludiques. Donc moi, j'ai rencontré un autre chef d'entreprise, tu vois, qui est du sud de Montpellier. Qui a développé un logiciel qui est hyper ludique pour la prise en charge des enfants, qui peut même être plurigénérationnel. On peut aller de la prise en charge de l'enfant pour les troubles de l'attention à la personne âgée pour garder de la plasticité cérébrale et donc garder un petit peu d'autonomie. Et du coup, je vais vachement matcher avec lui parce que je trouvais ça hyper intéressant de prendre en charge la population globale. Même si moi, je partais dans un objectif précis qui était l'optimisation de la vision du sportif. En fait, en travaillant en cabinet, je voyais tous les enfants de mes patients qui étaient 10, qu'en ont marre de venir aux séances où ils vont faire des labyrinthes sur un papier ou des mots fléchés. Là, tu leur proposes un truc hyper ludique sur un logiciel. Je trouvais ça génial de pouvoir proposer ça. Également de prendre en charge nos personnes âgées. Voilà, on avait toute cette capacité-là. Et du coup, bon, bah, j'ai matché depuis un an avec Nicolas, j'ai présenté plusieurs fois. Et aujourd'hui, depuis la rentrée, là, on match avec les équipes du coin, donc les équipes de sport, donc le rugby, entre autres, le basket, auquel on a fait une démonstration il y a peu de temps, du foot également. Voilà, on a en plus des belles équipes dans notre région. Donc je trouve ça important de pouvoir les aider, leur apporter ce dynamisme. Et finalement, tu vois, les premières fois où je suis allée au rugby, j'ai pas travaillé sur les écrans, sur le logiciel, j'ai travaillé sur les blast pods, donc les petites lumières que tu vois sur mon bar. Et donc c'est des lumières qui s'allument, hein. Et le but, c'est d'apporter des exercices différents selon ce qu'on va chercher à travailler, donc les réflexes oculo-mano, oculo-pédalo. Et, Et tu vois, les gars au début, ils étaient là, ouais, ils fanfaronnaient un peu. Et en fait, en 3 exercices, bah, tu te rends compte que c'est physique ce que je leur demande. Et que non, je ne suis pas simplement la petite nanette qui va venir leur raconter une jolie histoire. Et voilà, aujourd'hui, on ne va pas que taper sur des lumières. Non, les gars, on va aller un peu plus loin, ok ? J'ai beau être une nana, on va aller bosser un peu. Et tu vois, c'est intéressant de voir ça, de rentrer dans ce milieu en tant que femme également, encore une fois. Et de leur montrer qu'on peut améliorer, qu'on peut vraiment leur apporter des choses, aussi bien sur le point de vue donc, médical, c'est-à-dire lentilles de contact, qu'est-ce que je vais pouvoir t'améliorer ? Je vais améliorer ton acuité visuelle grâce à des lentilles, ce qui va te permettre déjà d'être meilleur sur le terrain. Et derrière, on va aller encore plus loin. Et tu vois, tout ça, ça a un lien. Et finalement, moi, c'est ma récréation le soir. Tu vois, je pense plus, c'est pareil, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas tout ça. Aujourd'hui, les gars, on va juste travailler ensemble, et on va travailler ensemble pour être meilleur sur le terrain. Et je trouve ça... C'est également hyper motivant.
C'est ce qui fait que ton projet d'entreprise, il est ancré. Enfin, ça, on le dit souvent, nous. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas des horaires de bureau, quoi. De toute façon, ça peut être n'importe quelle heure, même si t'es sur un sujet peut-être qui peut être personnel à un moment, ou si t'es avec des amis, ou peu importe. De toute manière, tu le portes. Donc, la moindre chose qui peut te parler de ton activité, du combat que tu mènes et de l'objectif que t'as, tu vas t'y raccrocher, puis tu vas pas avoir l'impression de travailler. Pour autant, tu développes ton entreprise, quoi.
C'est ça. Par contre, on bosse quand même. Faut dire ce qui est
bien sûr.
La base. Je sais même plus ce qu'a dit Brassens. C'était quoi le talent sans travail n'est qu'une sale manie ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a
quelque chose. T'as raison.
Brassens dit un truc comme ça. Et c'est exactement ça. C'est que derrière, faut bosser quoi. T'as beau avoir ce que tu veux, c'est des heures. En fait, être entrepreneur aujourd'hui, moi, il y a eu un débat comme ça sur LinkedIn aussi, c'était est-ce que vous bossez le week-end ? Est-ce que vous lâchez votre téléphone ? Est-ce que machin ? En fait, tu peux pas. Moi, je bosse le week-end. Je peux, hein, de temps en temps, lâcher, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Je pars en vacances, je bosse le matin.
Mais en fait, t'as même pas envie, je pense. Parce que quelque part, t'as un moment où en fait, tu veux pas arrêter parce que tu l'as en tête et que y a même, tu vas être un week-end, il y a quelque chose qui va te faire penser à ton entreprise et quelque part, t'as pas envie de pas travailler parce que t'as une idée qui arrive et que tu développes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup lire. J'aime bien le week-end me poser et lire. Et on n'a pas beaucoup de temps pour se poser, ni beaucoup de temps pour lire. Et quand je décide de me poser et de lire, ça va être sur des lectures qui vont en fait m'inspirer sur ce que je développe avec mon entreprise. Tu vois, donc tu continues finalement à t'informer ou à veiller, etc.
Exactement, je pense que mes lectures sont aussi très portées sur l'entrepreneuriat.
Et alors, c'est quoi tes dernières lectures, tes dernières inspirations là en ce moment? Tu lis quoi?
La biographie de Magellan.
Mais c'est... Alors là, tu vois, tu peux pas mieux dire pour moi, parce que déjà, l'histoire... À la base, c'est ce que j'adore, l'histoire de France, mais globalement, les grands personnages de l'histoire et ce qu'ont construit nos civilisations. Alors Magellan, typiquement, comme personne inspirante et qui a construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est exceptionnel.
En fait, il y a vraiment une comparaison à l'entrepreneur aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas compte. Tu vois, il y a les histoires de difficultés d'association, les difficultés d'aller chercher des fonds, les difficultés d'aller au bout de son projet, les difficultés...
C'est un projet fou, un projet où personne n'y croit.
Exactement. Et en fait, c'est pareil. Hein. Moi, généralement, mes lectures, je les vois parce qu'on me les préconise. Et je suis tombée là-dessus. Et c'est vrai que ça fait partie de mes dernières lectures. Et je trouve ça assez captivant de voir qu'en fait, malgré les années qui passent, on est toujours sur les mêmes difficultés. Et je trouve ça assez dingue. En fait, aujourd'hui, tu vois, quand je lis, alors je prends pas beaucoup de temps pour lire non plus. Moi, je lis souvent sur la plage, hein, pour dire ce qui est. Et là, je lis quand je prends le train de temps en temps, et encore quand je suis pas en train de traiter mes mails. Gros, ou de dormir, parce qu'il faut dire ce qui est, je dors aussi pendant les transports. Mais c'est vrai que ces lectures-là, j'en ai très peu. J'ai lu ça, j'ai lu... contre le développement, le titre, ça s'appelle Contre le développement personnel. Et ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas contre le développement personnel typiquement, c'est surtout contre le terme qu'on a un petit peu trop familiarisé, le développement personnel. Et j'ai trouvé le livre très bien aussi, tu vois, sur notre société actuelle, comme quoi on est en train de créer des individus individualiste d'ailleurs, qui pensaient principalement à leur réussite à eux plutôt qu'à une réussite en communauté.
La réussite globale ou une cause.
C'est ça, on est en train de dire à tout le monde de créer vos sociétés, c'est génial, les patrons c'est tous des cons, quittez-les. Mais vraiment, c'est...
Et devenez vous-même patron, vous allez voir que ils étaient peut-être pas si cons.
Ah, putain, cinq semaines de congé payé, c'était pas mal. Claquer la porte à 19h sans responsabilité, c'est cool aussi.
Non, mais 19h, attends, grand max.
Grand max. Non, mais mine de rien, on se rend pas compte, tu vois. Moi, des fois, c'est des difficultés que j'ai dans des soirées avec des amis où, quand je les entends, je me dis, tu vois, typiquement en train de me dire, ouais, tu te rends compte, ils s'en mettent plein les poches et tout. Hey, mais mec, t'as mis de l'argent sur la table au début ? T'as vécu, t'as pris ton risque ou pas ? Non, mais c'est ça, on voit pas ce passage, en fait, qui est compliqué. Et même si aujourd'hui, ils s'en mettent plein les poches, typiquement, on l'a vu avec le Covid et le secteur de l'aéro, ils ont beau avoir grossi avant, ça a été hyper chaud en fait pour le Covid. Mais vraiment très très difficile. Moi j'ai vu des chefs d'entreprise sur mon fauteuil, au cab, en dépression totale. Parce que là par contre il y avait très très lourd sur les épaules et on ne savait pas où on allait. Et eux pourtant en tant que salariés, ils touchaient tranquillement la petite aide en étant chez eux, c'était cool. Pas nous quoi derrière. En fait ça on oublie en fait toute cette partie-là où... C'est même pas qu'on oublie, on ne veut pas le voir, surtout. Et je trouve que c'est ce qui nous manque dans notre société. C'est d'avoir moins de barrières, en fait, entre nous, entrepreneurs et salariés, d'être plus, je sais pas, plus réaliste sur ce qu'on vit, tu vois, et que les autres ouvrent les yeux aussi sur ce que vivent leurs amis. Moi, je fais pas partie des gens qui parlent beaucoup sur mes problèmes en fait en entreprise. Mes amis pourront te le dire, voire une amie qui aujourd'hui est aussi créatrice de sa société, je pense qu'elle m'a toujours dit, heureusement que tu m'as jamais dit quand ça n'allait pas dans tes sociétés.
Oui, parce que peut-être que tu l'as inspirée en lui montrant uniquement ce qui te portait ou ce qui était beau dans ce que tu faisais, quoi. Et que finalement, elle s'est dit, oh merde, elle m'avait pas dit qu'elle avait galéré.
Et c'est notre thématique, tu vois, on en a beaucoup parlé, où justement, on montre pas toute cette partie-là. Et moi, la première, je le montre pas, je vais pas te dire à chaque fois, oh là là, je suis dans une galère. Mais sinon, je te le dirai tous les jours, parce que si c'est pas une société qui m'embête, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Et mais en fait, je suis tout le temps dans une galère.
Quelque part, t'es un peu partagée, alors c'est super confortable de pouvoir, et je pense riche d'ailleurs, de pouvoir parler de ces difficultés avec un petit cercle, avec des gens qui peuvent être là pour toi, qui t'entourent, comme tu disais tout à l'heure, mais tu peux pas passer ton temps à montrer tes difficultés parce qu'effectivement sinon c'est tous les jours et tu vas être face à des gens qui potentiellement sont peut-être des futurs partenaires, des futurs clients, des gens qu'il faut que tu puisses convaincre de te suivre dans tes projets. Donc si tu passes ton temps lundi, par contre c'est galère, ça fait des années que je suis dessus, tu vois, tu les emmènes pas.
Ouais, et puis en fait finalement là, comme on disait, qu'est-ce qui fait que tu continues et pourquoi tu continues? C'est la positivité.
C'est pour ça. Non, mais c'est ça que tu mets d'abord.
Un leitmotiv, hop, ouais.
C'est parce que comme tu es sûr de ton projet, de toute façon, il va marcher. De toute façon, tu le sais, il va marcher.
Ouais, donc, après, c'est donc juste dans combien de temps.
Voilà, c'est ça. Donc, les galères qui sont finalement les petites batailles du début, c'est pas grave parce que tu as ton objectif final. Ouais. Mais c'est important d'avoir le cercle de personnes à qui tu peux dire, et là, vraiment, par contre, je morfle un peu. Je dors pas bien la nuit.
Alors, je le dis toujours pas, je mange pas bien. Beaucoup.
C'est fatigant.
Et puis, moi, finalement, tu vois, ça m'empêche pas vraiment de dormir. Je suis pas une grosse dormeuse déjà de base, mais je suis capable, tu vois, en plein milieu de la nuit, d'avoir une idée, de me lever, d'aller chercher tout ce que tu veux. Ah, mais je note même pas. Moi, le lendemain matin, t'as déjà ton business model qui est prêt et tu veux savoir si j'y vais ou si j'y vais pas.
C'est peut-être un sujet de neurosciences, ça. Tu sais, le cerveau, une fois qu'il est au repos, qu'il dort, il t'envoie des petits signes,
signaux.
Des petits,
ouais. Ah ouais. Mais franchement, je pense sur plein de thématiques, c'est vrai. warning.
C'est ça. C'est bizarre ce rêve. Non, mais écoute ce que t'as dit, ton rêve.
C'est ça. Crois. Pars, change, fais ce que tu veux.
Voilà, c'est ça.
Mais bien sûr, il y a plein de choses à voir. Mais en tant que. Je pense que notre thématique première aujourd'hui, c'était de se dire. Tout le monde, et je l'ai dit en congrès, tu vois, ça a été une de nos thématiques de congrès au mois de mai où on a fait un congrès entre copains. On était quatre sur scène à parler justement de notre. De notre parcours en règle générale. Et moi, Gaëtan, qui était notre maître de cérémonie, m'a dit tu axes sur l'entrepreneuriat. Tu es la seule à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc axe dessus. Et clairement, j'aurais présenté donc, toutes mes sociétés et j'aurais dit à la fin la troisième, c'est la merde, hein, je suis en divorce. Hein, clairement, c'est typiquement ça. Je commençais donc cette partie-là de devoir. restructurer, perdre des associés, restructurer une société et être en divorce et comprendre ce que c'était hein, aussi. Je n'ai pas divorcé dans ma vie privée, je ne suis même pas mariée, donc de toute façon,
là-dessus, ça va. Tu risques moins. Là, je pense que la meilleure façon de ne pas divorcer, je te promets, c'est et de ne pas se marier, je pense.
Et donc, du coup, moi, je ne connais que les divorces d'un côté entreprise. Et tu vois, je leur ai dit sur scène, j'aurais dit typiquement, on est en train de vous vendre du rêve, en train de vous dire, allez-y, lancez-vous. Hein. Je mets déjà juste... Si vous êtes bien salarié, vous pouvez être un très très bon salarié et rester sur votre voie. Tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Et au contraire, si aujourd'hui on a autant de sociétés qui tombent, qui ne voient pas le jour ou qui voient très peu le jour finalement, c'est parce que on peut avoir une très bonne idée, mais pas avoir les ressources pour l'exploiter, pas être à même en fait d'emmener l'idée de l'exploiter totalement. Donc du coup, c'est compliqué après pour soi individuellement d'accepter l'échec, d'accepter de se dire que on s'est planté, même si on lit dans tous les journaux oui l'échec fait partie de la vie, c'est génial, non mais c'est pas vrai, ça fait mal quand même hein. Moi, je pense que quand tu tombes vraiment et que tu mets la clé sous la porte et que c'est terminé, moi tous ceux qui ont écrit ça sur LinkedIn et qui viennent pas me dire je dors super bien, c'est génial ma vie, je suis super ravie d'avoir mis la clé sur la porte. Non, c'est pas vrai. Ça fait mal à l'ego.
Comme tout le monde, tu pleures dans ton canapé avec un pot de Nutella et t'es au bout de ta vie, évidemment.
Ça fait mal à l'ego aussi, on a tous de l'ego, faut dire. Et d'ailleurs, première qualité, défaut, je sais pas comment on peut le dire, mais je pense que tout chef d'entreprise a un ego un peu surdimensionné. On a besoin de ça en même temps pour avancer. Si on n'a pas cet ego-là, demain... merci, au revoir, t'existes plus. En fait, aujourd'hui...
Et l'échec, c'est terrible, parce qu'en fait, tu le prends comme une remise en question de toi, en fait, de ce que t'es. C'est pas ton projet qui a échoué, c'est pas ton entreprise, c'est pas un petit détail d'un dossier que t'aurais mal réalisé. Non, en fait, c'est toi qu'on rejette. Enfin, donc c'est un truc, effectivement, ça ne va pas du tout.
C'est compliqué. Aujourd'hui, voilà, on sous-estime cette partie-là, donc on pousse tout le monde à aller faire des entreprises. Créer, t'as une idée, c'est génial, elle est géniale, ton idée, vas-y. Non, ça marche pas ça. C'est soit t'as l'idée, tu t'entoures réellement d'une vraie équipe et ça demande du temps en fait à mettre en place toutes ces bonnes idées et tu sais que tu vas devoir aller au bout et que tu vas devoir trimer et que tu vas ramer et que t'as des week-ends où tu vas pas dormir ou je sais même plus qui a dit que de toute façon pour être un entrepreneur il faut accepter d'être pauvre aussi au début parce qu'il va falloir que t'investisses ton temps, ton argent.
Et oui.
Ok. Et ça c'est quelque chose d'hyper... d'hyper compliqué parce que dans l'échec, si tu tombes, en plus en tant que chef d'entreprise, tu n'as pas de filet de sécurité. Tu cotises pas au chômage. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, je trouve qu'on idéalise un petit peu trop cette partie-là. Et moi, la première, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas, des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, il y a des soirs où je rentre, je me dis, vas-y, plante tout et redeviens salarié, quoi. Franchement,
alors, nous, si tu veux, on n'est pas encore dans ce truc-là parce que justement, nous, tu vois, je parle pour moi, mais parce que Cédric, il est déjà largement plus loin que moi là-dessus, mais j'ai encore un filet de sécurité un peu salarié. Et moi, c'est un pas que je vais passer bientôt, j'espère, très bientôt. Mais c'est une vraie question que tu poses parce qu'effectivement, il faut accepter d'être pauvre. Ça, j'aime beaucoup quand tu dis ça parce que, tu vois, j'arrive vers la quarantaine et donc j'ai passé une grande partie de ma vie salariée. Et je suis tout à fait consciente du risque que c'est d'être entrepreneur. J'ai un papa qui est chef d'entreprise aussi, etc. Et donc, je mesure ce que ça veut dire. Mais je sais aussi ce que ça engage. Et à l'âge que j'ai, eh bien, j'ai des enfants aussi à gérer, avec lesquels ils sont habitués à une vie assez confortable et avec une sécurité. Alors, même si c'est pas dit comme ça, mais je pense qu'ils ressentent le fait qu'il n'y a pas de souci, en fait, à la maison. Et donc, quand on décide d'avoir ce projet-là, parce que c'est un projet qui me porte, que j'ai envie de mener, et je sais que je vais faire ça, et je sais que je suis faite pour faire ça, et j'ai envie d'être chef d'entreprise depuis longtemps. Simplement, la vie, elle a fait que j'ai repoussé, parce que, pour plein de raisons, la société, enfin, je pourrais en parler plein de fois, mais voilà. Et là, quand tu te dis, maintenant, il faut que je prenne ce risque-là, tu te dis, oui, mais alors, attention, il faut que je sois hyper confiante et hyper sûre de moi, parce que je m'engage pas que moi, quoi. J'engage un peu de gens avec moi.
Alors toi, en plus, à ta famille, moi, je suis seule encore. Tu vois, au final, aujourd'hui, je n'engage
que moi.
Parce que
tu as commencé, en fin de compte, tu as commencé chef d'entreprise, toi, quelque part. Tu m'as dit tout à l'heure,
25 ans.
Moi, 25 ans, tu vois, je me suis dit, allez, je vais...
Alors moi, c'est vrai que mon leitmotiv, de toute façon, je pense dès que j'ai commencé mes études et la première fois que je suis allée voir mon premier patron, j'ai dû lui dire moi, ce que je veux faire, c'est ça. Tu vois, c'était déjà j'avais déjà mon parcours tracé au début. Bon, avant de changer plein de fois, certes, mais tu vois, j'avais déjà une ambition de me dire non, je resterai pas là. En fait, tu sais très bien que je vais pas rester là. Et mais après, tu vois, toi, t'as différents styles de chef d'entreprise, et ça, j'en ai parlé dans différents groupements que j'avais vus de chefs d'entreprise. T'as ceux qui vont faire leur vie privée et après devenir chef d'entreprise comme toi, ou t'as ta famille autour, donc en effet, t'as un autre engagement. Et moi, j'avais décidé de d'abord matcher ma vie pro. Est-ce que c'est bien ? Je ne suis pas forcément sûre de ça. Parce qu'en fait, tu n'as plus de place après pour ta vie perso.
Je ne sais pas en fait ce qui est le mieux. Parce que tu as raison dans ce que tu dis. Et en fait, c'est un sujet qu'on a évoqué déjà plein de fois avec Cédric. Parce qu'en fait, on est une génération. Je parle nous, puis je vais parler plutôt pour les filles. Je suis désolée, ça va faire le petit point fille du podcast. Mais on est une génération de transition. C'est-à-dire qu'en fait... on est des femmes qui avons envie et qui pouvons avoir une vie avec une carrière professionnelle intéressante et des projets qu'on mène et une autonomie et l'envie de faire plein de choses. Mais à la fois, on n'a pas forcément encore renoncé ou en tout cas, on ne renonce pas facilement à cette vie un peu cadrée de famille avec des enfants, etc., etc. Et donc, on est sur un espèce de truc où on voudrait tout pouvoir faire. Et c'est hyper compliqué parce que c'est ce que tu dis. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que ce qui est le mieux, c'est ce que j'ai fait de dire « Bon, je vais mettre ma carrière professionnelle un petit peu entre parenthèses. En tout cas, je vais faire des choix professionnels que je vais appeler raisonnables, confortables pour installer une vie privée ou en tout cas une vie de famille, être mère de famille comme on l'entend, comme il faudrait. Et puis, quand mes enfants vont grandir, ce qui est le cas aujourd'hui, je vais m'accorder d'être libre et de faire autre chose. C'est pas si simple, parce que finalement, au moment où je me dis, tiens, je vais être libre, c'est pas forcément facile de le faire. Donc, je sais pas si c'est la bonne chose. Ou alors, on fait le choix que tu fais toi de dire, non, mais attends, mais moi, ma passion, ma vie, c'est le boulot que je veux faire. J'ai un projet qui est énorme et j'ai ma vie pour le mener. Et donc, je vais le faire. Et puis après, ma vie perso va se caler sur ça. Parce que finalement, ma vie pro, elle va prendre beaucoup de place et j'aurai la vie perso qui sera adaptée à la vie pro que j'ai fait. Et je sais pas, tu vas nous dire, mais c'est pas forcément si simple. Je sais pas où est le bon truc, tu vois, je crois qu'il y en a pas.
Je pense qu'il y a pas de bon curseur.
Non, tu vois, tu fais comme tu peux.
On parlait juste avant du podcast de Christine Lagarde que j'avais écouté. Et elle dit d'ailleurs dans son podcast que de toute façon, on ne peut pas tout réussir d'un coup. Tu peux pas réussir ta vie pro et ta vie perso, il y a un temps pour tout. Je pense que je suis assez d'accord sur ce qu'elle dit. Aujourd'hui, donc moi, j'ai calé sur ma vie pro, mais du coup, tu donnes maintenant l'image aussi d'une femme... qui ne rentre pas dans
et là, ça va
les
pas
normes.
Du tout. Non, mais là, Marie-Laure, ça va pas du tout.
Non, mais c'est vrai, en là, fait. Au vrai, final, sûr, tu deviens... Je pense qu'on a cette image où on nous aime parce qu'on est cette femme forte qu'on représente, entrepreneuse, avec des idées, qui parle bien, voilà,
qui est jolie.
Cool.
Ouais, on voit pas son podcast, mais en plus c'est joli.
Tu peux rajouter ça en plus, mais derrière on est aussi cette femme qui fait peur parce que on peut prendre plus de place en fait que ton homologue masculin à côté.
Bah, disons que tu vas donner ton avis, tu vas pas juste attendre qu'il rentre à la maison puis juste mettre les pieds sous la table et puis c'est sûr,
t'as
c'est plus compliqué
idées,
quoi.
T'as ta vie et puis voilà, t'as une structure patriarcale où jusqu'à présent l'homme ramenait l'argent à la maison, c'était vachement sympa et la femme attendait gentiment à élever les enfants. Donc en effet, comme tu dis, on est sur une dégénération, on est en train de faire changer les choses, mais on est quand même pas prêt. Aujourd'hui, je pense à accepter le fait que la femme puisse avoir une valeur. Je dirais même pas une valeur parce que pour moi, on est plutôt. Je chercherais mon homologue. Enfin, qu'on
non,
soit.
Mais c'est ça.
C'est
plutôt en fait de créer une équipe qui soit. Enfin voilà, un couple.
Mais faut que l'autre l'accepte.
Mais voilà, et l'accepte. Et en plus, dans ce qu'on disait, un peu comme sur l'association d'entreprise, l'accepte, mais l'accepte avec tous les changements qu'il peut y avoir de la vie. Et puis, voilà,
moi,
les bouleversements.
Tu vois que j'émascule les hommes. On dit, je vois pas le rapport, tu vois, en fait, aujourd'hui. Non, c'est pas parce que tu as des idées et que tu les emmènes et que t'as une certaine place aussi en société qui fait que. Je pense qu'il y en a d'autres que tu as interviewées qui ont cette même place et qui ont d'ailleurs le même rapport que moi vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, on a cette difficulté-là dans notre vie perso. Aujourd'hui, je pense que trouver quelqu'un qui puisse nous soutenir en fait dans nos projets, ça reste difficile. Et plus le temps passe, et plus je me le dis, tu vois, aujourd'hui.
Mais je pense qu'en plus, c'est compliqué aussi pour les hommes. C'est-à-dire que, sincèrement, je pense aussi que est-ce que c'est facile de choisir la personne qui va t'accompagner dans une vie perso quand t'as 20 ans, quand t'as 30 ans ? C'est pas si simple que ça, tu vois, parce que même aujourd'hui, en tout cas, nos pères n'attendaient certainement pas la même chose d'une femme que vont l'attendre nos fils, clairement. Et donc, on est sur un truc aujourd'hui où qu'est-ce qu'on fait, comment on se situe. Et je pense que c'est compliqué pour les femmes aujourd'hui, mais pour les hommes aussi, comment ils se situent, quelle est leur place, jusqu'où on va. Aujourd'hui, on a quand même des hommes qui sont des pères de famille investis, en tout cas beaucoup plus, qui n'ont pas envie de laisser leur place sur l'éducation des enfants, qui ont envie d'être présents à la maison, mais simplement, ils ont aussi envie d'être chef d'entreprise, ils ont aussi envie d'être dirigeant ou d'être... Et ce n'est pas forcément bien perçu en entreprise de dire, bah, je vais partir plus parce que j'ai mon enfant à aller chercher au foot ou peu importe. Et on en parlait aussi sur un podcast où on interviewait un homme, Aymeric Houdin, qui, dans le cadre de ses combats, on va dire, un petit peu politiques, défend la semaine de 4 jours, par exemple, pour ça. Pour dire parce que je veux laisser mes employés, hommes ou femmes, pouvoir s'investir dans l'associatif, pouvoir avoir des activités qui seraient, on va dire, personnelles. Hors du travail. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai questionnement global sur jusqu'où on va entre le pro et le perso.
Ouais, voilà, c'est trouver un équilibre. Mais l'équilibre est très difficile à trouver. Je pense qu'en fonction des personnes, en plus, il est totalement différent.
Et puis je pense qu'il change tout au long de la vie. Je pense que t'as pas les mêmes envies. Voilà.
Exactement. Aujourd'hui, moi, mon équilibre, c'est, comme je disais, de manger, faire une bonne bouffe avec mes amis, une bonne bouteille de vin, passer une bonne soirée. Je suis assez ambivalente, hein, en fait. Moi, je suis capable, vous voyez, d'aller au rugby et de passer une super soirée avec l'équipe de rugby le soir ou basket, comme après être dans une soirée congrès en talons de 12 avec le verre de champagne. Il faut être multifacette, mais du coup, ça voudrait dire que la personne qui t'accompagne doit avoir aussi ses multifacettes, tu vois. Des fois, quand je l'ai lu cet été, on disait que les chefs d'entreprise étaient un peu bipolaires ou avaient cette tendance à devenir bipolaires. Non, mais c'est bête, mais en fait, en y réfléchissant, tu peux l'avoir cette façon.
Globalement,
parce que... Et moi, quand je me vois, je me dis, oh, je suis en train de travailler ma bipolarité, quoi. C'est une catastrophe.
Mais non, mais parce que la vie, c'est tout ça. Et nous, on le voit aussi sur l'événementiel ou sur les rencontres qu'on organise pour des entreprises où on voit, en fin de compte, alors c'est souvent des cadres ou des équipes commerciales, par exemple, qu'il faut qu'on fédère. Et on voit sur leurs attentes qu'il y a cet aspect hyper sérieux, hyper impliqué sur le travail, sur la volonté, par exemple, de développer une stratégie pour la boîte, de réorienter la rentrée, de peu importe avec chacun ses caractéristiques. Et puis aussi ce côté de lâcher, de partager des moments ensemble, d'être posé. Alors il y a certains qui dansent, il y a certains qui vont s'asseoir sur un canapé et puis discuter tranquillement. Il y en a qui vont partir dans leur chambre beaucoup plus tôt, d'autres finalement qui vont pas dormir de la nuit parce qu'ils ont besoin de lâcher. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Je suis partie de la dernière tranche.
Et je trouve que c'est ça qui est beau parce que c'est l'humain. Alors ouais, c'est compliqué de trouver quelqu'un pour t'accompagner là-dedans. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont faites pour être ensemble. C'est compliqué, à la fois en entreprise, à la fois en vie perso. Donc
c'est ça, les mariages donc, de partout, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Et comme on dit, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Tu pourrais faire autant de podcasts d'autant de personnes que tu veux. Notre façon de voir la réussite, notre façon de gérer les échecs, la façon dont on va mener à bien notre projet... Ben, on ne peut pas dire à un entrepreneur il faut faire ça, ça, ça et ça va bien se passer. C'est pas vrai, chacun va réagir comme il le souhaite, chacun va se relever des échecs comme il le peut.
Et en plus, l'expérience des autres ne te sert jamais. Parce qu'en fait, on a beau te prévenir ou te dire ah, sois prudente là-dessus, fais attention sur ça, est-ce que tu as prévu ça ? Tant que tu n'as pas vécu le truc, tant que tu ne l'as pas ressenti, tant que toi, tu ne le vis pas.
Et bah, tu vas aller dans le mur.
Bah, tu vas aller dans le mur, puis c'est pas grave en fait.
prends le toit et ça va bien se passer après, ou pas d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est typiquement. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. On essaie tous. Et tu vois, moi, mes investisseurs, cet été, là, quand je leur disais ah, sur l'autre société, je ne sais pas où je vais et tout, ils m'ont dit, mais c'est un petit problème, ça. Tu apprends l'expérience. Ah, mais de toute façon, l'expérience, ça ne s'arrête jamais. Hein. Jusqu'à la fin, tu as de l'expérience. Alors, c'est hyper enrichissant, comme on dit. C'est enrichissant personnellement parce que c'est là où tu vois jusqu'où toi, tu peux aller, en fait. Qu'est-ce que tu es capable d'endurer ? On va reprendre le terme du début du podcast où on parlait d'endurance. tout ce que tu es capable d'endurer, tout ce que tu es capable de remettre en place pour te dire non, c'est bon, allez, je m'enlève, je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Puis bah, si ça sera pas encore la bonne recette, ben je rechangerai, tu vois, je rajouterai du sel, je rajouterai du poivre, enfin tu peux dire ce que tu veux. J'adore.
Et finalement, quand tu vis des choses que tu qu'avec le recul tu trouves difficiles, ou tu te dis ah, j'ai enduré ça, je me suis relevé de ça. Donc, quelque part après ça te grandit aussi, parce que tu te dis attends, si je me suis relevé de ça, qu'est-ce qui va m'arrêter, quoi.
Mais tu vois, même moi je me rappelle d'une petite phrase, tu vois, au dernier salon qui m'a donné parce que vraiment contactologue, je trouve ça long. Sa sortie, je me dis, putain, ça fait 5 ans que je suis dessus, c'est toujours pas sorti. J'en vois pas le bout, quoi. C'est horrible, ce sentiment de me dire, mais elle est où la fin du tunnel, là ? Elle est où la lumière ? Et en fait, à un salon, au mois de mai, c'était un salon des ophtalmos, et je me retrouve face à un dirigeant d'entreprise qui a créé également un progiciel informatique pour les ophtalmologistes. Et il me répond, il me dit, mais 5 ans que t'es dessus, c'est rien. Je dis, ah ouais, c'est rien. Putain, moi, j'avais l'impression, tu sais, que ça faisait des années et que j'étais nulle, quoi, du coup, tu vois. Je me dis, putain, j'arrive pas à le sortir, ce putain de logiciel. Ça m'agace. Ça t'agace.
Sauf que t'as pas rien fait entre-temps déjà.
Ah, mais non, t'as pas rien fait. Mais en fait, t'es quand même. Moi, tu vois, tu te dis, mais c'est tellement long de faire une levée de fonds, c'est pareil. Mais t'as pas forcément très long d'aller chercher les investisseurs, mais de faire toute la partie administrative à côté, machin. Et du coup, l'argent, tu le vois jamais arriver sur ton compte en banque. non, mais c'est quelque chose que. Tu vois, c'est mine de rien.
C'est normal, c'est du digital, tu sais, c'est fictif. L'argent, tu vas pas le voir arriver.
Alors, je te raconte pas avec tout ce qui arrive, avec les mondes parallèles et tout, c'est ça, l'argent. Voilà,
dans le métaverse, tu l'auras.
Dans le métaverse, mais tu sais, mais attends, tu veux parler du métaverse, mais j'en suis même à me demander comment je vais mettre la contactologie sur le métaverse. Franchement, c'est un marché à pas louper. Non, mais pour te dire à quel point tu réfléchis quand même tout le temps. On te parle de métaverse, tu dis ah ouais, attends, faut pas que tu passes à côté. Il faut
non, mais ça, c'est le vrai problème. Parce que tu vois, non, mais ça,
tout évolue hyper vite.
Truc. Et tu vois, je te raconte une anecdote, enfin, ça n'a rien à voir, mais j'étais, il y a pas longtemps, j'étais à un rendez-vous, mais pas du tout, un rendez-vous perso, vraiment, ça avait rien de pro du tout. Et je me retrouve à lire. Merde, je sais plus si c'est Paris Match ou Gala, mais peu importe, tu vois, le magazine vraiment avec une interview de Sophie Marceau, pour te dire comme c'est. Et dans son interview, je relève une phrase que je trouve ouf sur son nouveau compagnon, bref, et où il lui a plu parce qu'il a une vision de l'entrepreneuriat. Et là, il y a une phrase sur l'entrepreneuriat de dingue, tu vois, je la prends en photo, je l'envoie à Cédric, je dis « Regarde, ça c'est un truc à réécrire, à reprendre, à penser par rapport à notre nouvelle saison de podcast et tout. » Enfin, tout ça pour te dire que dans ma tête, je me suis dit « Mais ça va quand même pas bien parce que t'en es à arriver à trouver... » des inspirations ou des trucs qui t'emmènent plus loin dans Paris Match, tu vois. Donc,
Ah, mais il y en a partout, des trucs qui peuvent t'inspirer. Tu sais, moi, je regarde Disney, je suis capable de trouver des inspirations pour le monde des entrepreneurs.
Bah ça, c'est sûr, hein, si tu prends Vaiana...
Mais c'est tout bête, hein. Ouais, c'est comme Magellan, quoi.
Ah, bah exactement.
Non, mais mine de rien, t'as des messages partout, des trucs qui vont te faire penser à machin, mais... Mais après, il faut savoir sélectionner, je pense, les bonnes informations, ce qui, toi, va te booster, ce qui, toi, va te parler en tant qu'entrepreneur, et surtout, ce qui va te faire passer, donc les multiples échecs que tu vas te prendre en tant que bon entrepreneur. Franchement, si la personne qui me dit qu'il n'en a jamais pris, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou c'est, il est pas, il l'a pas encore pris, tu vois, il a créé sa société,
oui, c'est
il y a
ça,
6
tu
mois.
Dis, ça va pas tarder.
Prépare-toi.
On se rappelle la semaine prochaine.
Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. Je pense que tout le monde s'en prend. Et encore une fois, le gros désavantage aujourd'hui de nos réseaux, je pense, en tout cas de tout ce qu'on transporte par les réseaux, c'est de pouvoir s'auto-flageller en disant « Mais ah, t'as vu, l'autre, il est dans Forbes, il communique super bien. » Ouais, mais 3 mois après, il est en train de dire qu'il a clôturé sa société.
Et là, il ne mettra pas en story Insta, quoi.
Alors,
le souci,
mais
c'est ça
aussi.
Aussi.
Maintenant, ils font des... Mais alors, t'as vu la nouvelle mode, ils font des super posts pour te dire qu'en effet, ils arrêtent leur société. Parce que tu comprends, le dernier investisseur s'est retiré, nanana. Mais oui, tu trouves toujours des trucs. Mais en attendant, il communiquait tellement bien sur les réseaux qu'il a réussi à être sur Forbes. Mais ça veut rien dire aujourd'hui pour moi, Forbes. Tu vois, enfin, t'as pas... Faut pas dire que t'es plus nul qu'un autre, alors ton objectif, si c'est d'être dans Forbes, bah, passe ton temps à écrire sur LinkedIn, hein. Montre même pas de structure à côté, fais semblant, hein. Ça marche. Non, mais je sais pas, en fait, aujourd'hui, on a tellement de choses où on est en train de vanter les mérites de plein de personnes, ouais, mais derrière, ils se prennent des murs. On en voit un qui a créé sa société, qui est passé à la télé, qui était associé, et là, il s'est pris revers de la médaille de l'association. qu'est-ce qu'il a fait ? Il a perdu ses droits à son entreprise, il a été congédié, il a dû tout lâcher, et parce qu'il avait 49% des parts et qu'il n'était pas en accord avec la direction, alors qu'il fait partie des fondateurs de la société, qu'il était un vrai leader dans sa boîte. Et tu vois, il a tout perdu. Et tu vois toutes ces stories passer. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper dur, cette histoire-là. Je me suis dit, waouh, putain, le mec, il a donné sa vie pour sa société. Parce que c'était ça, hein. Il a notre âge. Il a tout mis entre parenthèses. Il a tout fait. Il s'est pris les multiples portes de démarrage.
Au moment c'est ça, c'est lui qui a tout monté. C'est ça.
Non, mais tu vois, mais typiquement, moi, je trouvais que quand j'ai vu passer tout ça, enfin, c'est bien de le voir passer justement, parce que le mec, là, mais tu vois, je me suis dit demain, je suis actionnaire minoritaire. Je donne ma vie pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, où je mets donc ma vie perso, entre parenthèses, pour tout donner à ma boîte. Je me prends les murs, ma boîte, elle est en pleine croissance, ça fonctionne aujourd'hui, et demain, tu te fais congédier. Parce que t'es pas en accord avec tes investisseurs. Mais
est-ce que tu crois pas que dans ce cadre-là, c'est la fin de la boîte ? Parce qu'en vrai, ce mec-là, une fois congédié, si c'est lui qui a tout porté, si c'est lui qui a tout conçu...
Alors, ils étaient deux. Après, je peux pas dire que c'est la fin de la boîte parce que finalement, elle est sur une lancée, tu vois ?
Parce que tu sais, c'est la fameuse citation que j'aime beaucoup de Coco Chanel, tu vois, « Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Hein. » C'est-à-dire que le mec, il peut refaire autre chose. Et peut-être c'est lui qui a le talent. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors lui, il a rebondi. Hein. Clairement, il a rebondi.
Forcément, c'est pour ça que je dis... Bon, après, je suis pas en train de te dire que pour lui, c'est super cool, super confort, super
facile.
Ouais, mais
tu vois, ce que je veux dire, c'est déjà le gros quoi. Enfin, au moment où ça s'est passé.
Non, mais pour la trahison aussi. Bah ouais.
C'est dur. C'est très, très dur. Moi, je trouve ça... Vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit, finalement, ça me mettrait à terre. Moi, je pense que ça me mettrait à terre. Sacrément. Tu vois, tu peux te relever de beaucoup de choses. Putain, ton bébé, parce que ça reste des bébés, hein, tes entreprises. Waouh. Mais moi, on fait le coup de me mettre dehors, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, au moment où c'est en pleine croissance, c'est-à-dire le moment où t'attends que ça, tu vois, ces 5 années où
tu t'es battu pour ça,
où tu t'es pris les portes et t'es allé juste pour ça, pour voir ton entreprise en croissance, au moment où t'es en croissance, avec potentiellement des développements à l'international, et là, tu te prends la porte finale, là. La porte blindée qui ne s'ouvre jamais, tu t'en vas. C'est dur. C'est vraiment très dur. Donc oui, tu peux te relever. Oui, tu vas trouver d'autres idées. Oui, parce que tu t'es montré en tant qu'entrepreneur et t'as montré que tu pouvais aller au bout de tes idées et monter les trucs. Mais est-ce que t'es capable de refaire ça une deuxième fois, en fait ? Tu vois ?
Et puis de refaire confiance aussi.
Tu vas te reconstruire. Je pense que tu refais pas confiance. On reparlait d'association. Hein. Moi, j'ai la chance. Tu vois, mes investisseurs m'ont clairement dit depuis le début, il faut que tu gardes 51% de la boîte. C'est une obligation. Aujourd'hui, il faut que tu gardes.
C'est un sujet, ça.
Ah ouais, mais ouais, c'est un sujet. Et je pense que, tu vois, sur notre boîte où je suis à 50-50, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est nul, 50-50. En fait, faut pas faire 50-50. Arrivé à un moment, t'es pas en accord, ça marche pas. Il faut qu'il y en ait un, malheureusement, qui tranche. C'est comme ça. Et il faut que tu sois en accord là-dessus, au début. Mais moi, ouais, heureusement que mes investisseurs m'ont dit, il faut forcément que tu gardes 51% de la boîte, tu vois. C'est une obligation et je pense que là-dessus, ils ont raison et la preuve en est quand tu vois des stories comme ça. Mais c'est dur. Voilà, aujourd'hui, les échecs, tu te les prends, tu peux te relever autant de fois que tu veux, jusqu'au dernier ou des fois, c'est pas ta boîte qui est en péril, c'est juste toi.
Ouais, tu vois, c'est fort ce que tu dis parce que l'échec, là, il n'est pas... comment je vais dire ? Il n'est pas technologique, il n'est pas comptable, il n'est pas chiffré. Là, l'échec, il est humain, tu vois. Là, l'échec, il est sur une blessure, une trahison ou quelque chose qui n'a pas marché, qui est impalpable, qui est sur l'humain. Et tu vois, c'est ça qui peut te mettre à terre. C'est ça qui peut te blesser et c'est ça que tu ne maîtrises pas de toute façon. Donc, moi, je me rappelle quand on a débuté ce projet, tu peux rencontrer 1000 banquiers, 1000 experts comptables, les meilleurs professionnels sur toutes les thématiques qui vont t'entourer, des expérimentés, des sociétés qui sont dans ton domaine et qui vont te donner, tu vois, leurs expériences, etc. De toute façon, la chose qui peut te mettre à terre ou à l'inverse, qui peut t'emmener haut, ça va être les rencontres, ça va être l'humain et ça, personne a à de recettes. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de tableau Excel qui va trouver le bon truc pour avoir l'associé qu'il te faut, la relation qui convient, la manière de gérer le mieux la boîte, tu vois ?
Non, alors tu pourrais faire tous tes tests de process com, savoir si tes personnalités, le vert et le rouge fonctionnent, machin.
Les signes astrologiques.
Voilà. Alors voilà, t'es quel ascendant, toi ? Tiens, tu vois ? Non, mais...
Je préfère pas te le dire, c'est trop confidentiel.
Je vais pas te dire les miens non plus, sinon tu vas prendre peur. Mais mais c'est vrai que typiquement tu pourrais faire tous ces tests là à la base et puis là tu sors sur un truc, écoute, on est compatible, c'est comme Mario premier regard, hein. T'es compatible, oui, voilà, à ça. 90%,
bah, comme 18%. Sur les sites de rencontre, mais super, mais non, en fait
c'est quoi la... Non, ça voilà, ça va être deux humains qui vont communiquer, ça va être deux
à un moment précis aussi, tu
c'est
vois
ça. Tu vois, typiquement, l'entreprise qu'on parlait, c'était deux potes à la base. Deux potes qui partaient avec la même idée.
Mais de toute façon, je vais dire, nous l'avons entendu mille fois. Faut pas s'associer quand t'es pote. Faut pas s'associer en famille, mais faut pas s'associer avec un inconnu. Puis faut pas s'associer avec quelqu'un qui est plus âgé ou qui
donc,
est du même âge.
Okay.
Ah ouais, donc en fait, avec qui je m'associe, on sait pas, avec ton chat peut-être, ou tu ne sais pas. Mais en fait, tout le monde te dit, de toute façon, quelle que soit l'associé que tu choisis, ça ne va pas.
Donc tu vois, si tu ramènes ça à ta vie privée à côté, bah en fait, ne te marie pas. C'est exactement le même deal. Tu t'associes pas, bah tu te maries pas.
Ou alors là, tu te maries avec un contrat carré, machin, qui se répartit les enfants, qui se...
Tu sais, exactement ça. C'est le pacte d'associé que tu signes au tout début dans ton association.
Exactement.
Faut que tu fasses la même chose dans ton mariage.
Exactement.
Avant que ça aille mal. Non, mais c'est compliqué, mais c'est vrai que finalement, ta vie aujourd'hui, elle est sur... Qu'est-ce que tu vois comme victoire, comme tu dis ? Soit, si on reprend l'introduction, on parlait de ceux qui ont comme victoire d'emmener juste un projet au bout.
C'est ça, exactement, ouais.
Ou
et qui lâche après,
qui
c'est pas grave.
Plein de projets et qui veut aller, qui ira peut-être pas au bout de chaque projet, qui va aller vers le grand projet. Toi, tu vas te prendre des murs et puis tu en auras certaines qui vont tomber et puis voilà. C'est comment tu vois ta réussite au bout et c'est marrant, je pense que j'en parlais hier. C'est en fait la question, c'est est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais ?
C'est ça.
Est-ce et puis tu sais... Si tu es heureux dans ce que tu fais, en fait, tes échecs, tu vas les gérer. Hein. Ça va
tu
très
sais,
bien se passer. Hein.
Est-ce que c'est vraiment utile de se prémunir de tous les risques ? Est-ce que vraiment, quand tu te lances avec ce que tu disais, un grand objectif, alors nous, tu vois, c'est ce qu'on a appelé notre demain, ce qu'on voulait construire, le projet de vie qu'on a derrière. Tu vois, tu te dis, une fois que tu as cet objectif-là, comment tu te prémunis de tous les risques ? Oui, ok, il y a des risques, mais en fait, si tu commences à faire un tableau et à te prémunir et faire des contrats partout et de te méfier de tout et de tout caler parce qu'on ne sait jamais le risque qu'on prend, mais en fait, tu t'avances pas et tu fais rien parce qu'il y a toujours un risque. Bah ouais, potentiellement, il peut y avoir une pandémie mondiale, par exemple. Tu vois.
Oh bah dis donc.
et ça, personne l'avait prévu. Donc, à partir de là, go quoi. Tu vois.
Non mais c'est ça. Non, moi, pour te dire, d'ailleurs, j'ai la pandémie mondiale. Moi, j'ai créé Contact Dog juste avant le Covid.
Ouais,
ça
c'est
m'a
une
mis
bonne idée, hein.
Mais mine de rien, tu vois, j'étais tous ceux qui ont créé leur début d'entreprise juste avant Covid. Pareil, ils l'ont pas prévu la pandémie mondiale. Chef d'entreprise, ils quittent leur société, donc sans filet de sécurité, ils se retrouvent avec une entreprise qu'ils peuvent pas lancer
en plus sans vision de combien de temps ça va durer. Parce que moi, je me rappelle au début de la crise, donc nous, on crée une agence événementielle, cool, pandémie mondiale, génial. Et en fait, on se dit, sincèrement, on est au bout de notre vie parce qu'on se dit, oh, il y en a au moins pour 15 jours. Et on est au bout de notre vie, quoi. Et là,
jours,
un mois, 6 mois, 2 ans, mais nickel. Non, mais franchement, au top. Hein.
Franchement, ça s'est bien passé.
Bah, tu sais quoi, la chance qu'on avait, tu veux que je te dise la vraie chance qu'on avait, c'est qu'on avait notre grand objectif final et qu'on pouvait pas faire d'événement. C'est pas grave, tu sais quoi, on a fait un podcast.
On a fait d'autres voilà, trucs. Tu vois, on en revient ouais. Même. T'as ton objectif final, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Tu vois, on est de la team Musk aussi, nous.
Bah ouais, c'est ce que j'ai dit au début, je pense qu'on est tous de la même team en fait. On a tous choisi notre team. Et je pense que c'est savoir en effet qui tu es, comment tu mènes les choses et où tu vas. Et si tout va bien, si tu es heureux, si tu es confiant dans ce que tu fais, surtout si tu crois dans ce que tu fais, tu pourras te prendre toutes les portes que tu veux. Et tu pourras rebondir surtout. Parce que au bout d'un moment, bon, et à un moment, faut être honnête, hein, faut arrêter de rebondir quand tu te prends vraiment toutes les portes et que ça va vraiment plus. Arrête. Tu vois, non, mais faut voir les choses, faut voir comment ça évolue. Si à un moment, t'as un step quand même entre les deux, si t'es toujours au même step et que t'es toujours en train de prendre les mêmes portes, arrête.
Quel délai on se donne ? Est-ce qu'on se revoit dans 10 ans, dans 15 ans ?
Non, non. Nous, vraiment, aujourd'hui, Contactologue a une visibilité sur 2023, vraiment de voir le jour sur sa première version. Alléluia. Tout le reste, je pense qu'en effet, l'évolution, enfin, mon grand projet, c'est une évolution sur 15 ans. Et là, quand j'en parle avec l'industrie, c'est typiquement le discours que je leur tiens. Aujourd'hui, je leur dis, je ne suis pas en train de vous amener une solution miracle pour demain, en fait. Je suis pas Dieu. 50 ans que le marché, il est comme ça. Il va falloir changer les mœurs, changer l'état d'esprit des gens, déplaire à certains, accepter peut-être d'avoir un marché légèrement plus décroissant à un moment pour pouvoir le remonter derrière. Et ça, c'est le discours que je tiens donc à l'industrie. C'est quand même un peu lourd de temps en temps. Mais je pense que ouais, je leur dis, c'est pour pouvoir voir les choses évoluer sur les 10 prochaines années, en fait. Aujourd'hui, il faut reconstruire les bases ensemble. Et ça, c'est le discours que j'ai tenu à ma soirée de lancement l'année dernière. Dire qu'aujourd'hui, on va reconstruire les bases et on va remonter les marches en fait, tous ensemble, mais chacun à sa place avec des parcours normés. Donc j'ai envie de te dire que si tu veux vraiment savoir si le grand projet a évolué, il faut se revoir pas avant 10 ans.
On va conclure sur ça. Quel est ton demain? Comment tu le vois, ton demain idéal, celui que tu envisages, celui que tu vises?
Alors moi, mon demain, j'ai pas pour vocation de garder toutes mes sociétés, tu vois. Je souhaite lancer et je suis en accord là-dessus avec mes investisseurs, c'est de dire que demain, je lance, mais je redonne le bébé après, en fait. Tu vois, c'est je pense que tout ce qui me motive, c'est les débuts, en fait. C'est justement de me prendre toutes ces portes et c'est pas après de continuer une fois que tout va bien et que t'as plus cet attrait, ce challenge. Moi, mon demain, ça sera toujours du challenge, toujours des nouvelles idées. Je pense que c'est ma vie de demain, toujours, toujours et encore, et que je vais m'ennuyer si j'ai pas ça. Donc ça va être sans cesse des nouveaux projets. Et je pense qu'on peut se revoir dans 10 ans et j'aurais dit que j'aurais eu des nouveaux projets et que le reste, ça m'appartient peut-être plus. Et j'aime ne pas savoir ce qui va se passer demain, en fait. Tu vois. Je pense que c'est ça, c'est de partir à l'aventure et à l'inconnu. Je peux pas te dire ce que je vais être demain. Je vais dire que je serai pas au même point qu'aujourd'hui, c'est sûr. Mais où, ça se trouve, je serai plus dans le digital, je serai totalement. Alors, il y aura toujours cette notion commune, on est d'accord.
De toute façon, je sais où tu seras. Tu seras dans notre bureau
à New York.
À New York, donc.
C'est ça. Exactement, avec Elon Musk, de retour de Mars. J'avais oublié. Non, mais ouais, je pense que demain, tout ce que je souhaite, c'est que ça soit aussi motivant et challengeant qu'aujourd'hui et qu'on voit les choses avec toujours autant de positivité, j'ai envie de dire, qu'on est capable de vouloir faire changer les choses et les mœurs demain. Et c'est ce qui compte pour moi, c'est de faire évoluer mon milieu. Après, peut-être que je serai en échec, hein. tout le monde me dit bon courage, et ben je me souhaite bon courage aussi. mais non, j'y crois et je pense que c'est ce qui nous fait ce petit net motive. Et demain, le demain, en tout cas, c'est de continuer de garder l'envie de changement et l'envie d'aller plus loin et l'envie d'apporter du plus pour les autres. Et voilà.
Merci Marie-Laure.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On répond toujours. Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.